à tous. Nous sommes des élèves de première qui font partie de l'atelier prépa de Sciences Po. Et le 2 mars 2022, nous avons été invités à l'Université Saint-Joseph pour assister à une conférence tenue par l'ambassadeur ukrainien qui nous a présenté sa position officielle à chaud puisque nous étions à une semaine du déclenchement de la guerre. Donc durant cet entretien, les étudiants de la faculté d'histoire et de relations internationales se sont relayés pour poser des questions à l'ambassadeur. Et à présent, nous pouvons dire ce qui est ressorti. Donc Hassan, est-ce que tu peux s'il te plaît nous donner un compte-rendu de la présentation personnelle de l'ambassadeur ?
Bien sûr. Alors, l'ambassadeur a commencé par parler de la guerre de son point de vue personnel, dont je vais vous parler maintenant. Il nous a raconté tous les faits par le biais de sa famille qui se trouve en Ukraine et qui lui rapporte tous les événements qui s'y passent. Il nous a parlé des logements utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale, dont on se sert aujourd'hui pour se protéger des bombardements. Ceci nous rappelle l'ampleur du conflit qui se déroule actuellement, ainsi que la souffrance du peuple ukrainien. Il a mentionné le nombre de victimes qui ont été touchées par la guerre. L'ambassadeur n'hésite pas aussi à exprimer à quel point il est ému par ce qui se passe dans son pays. Il s'est appuyé sur son ressenti personnel tout au long de la conférence en exprimant ses opinions. Ceci explique pourquoi il appelle ses interventions militaires des actes de terrorisme d'une manière aussi flagrante. L'ambassadeur s'est basé sur ses sentiments afin de susciter chez le public le plus de compassion possible envers le peuple ukrainien.
2 semaines après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les pertes humaines et matérielles du conflit militaire le plus meurtrier d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont stupéfiantes. Au moins 816 civils ont été tués et plus de 3 millions d'Ukrainiens s'étaient réfugiés dans les pays voisins depuis le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine. L'Ukraine a donc annoncé que le bilan des troupes russes sur son territoire a atteint 14 400 soldats tués dans les combats qui se déroulent depuis fin février. L'armée ukrainienne a réussi à abattre 95 avions et 115 hélicoptères, ainsi qu'à détruire 466 chars et 1470 véhicules militaires. L'armée ukrainienne a également détruit 72 lanceurs de missiles, 914 véhicules et 17 drones. Aujourd'hui, c'est un bilan matériel bien, bien plus important que le 2 mars. L'invasion militaire russe de l'Ukraine a poussé l'Union européenne à annoncer de nouvelles sanctions.
S'il y a une chose qui est véritablement emblématique et caractéristique de cette guerre inattendue, c'est l'affirmation d'une nouvelle géopolitique à l'international. L'ambassadeur ne s'est pas retenu d'énumérer les différentes sanctions imposées sur la Russie afin de potentiellement mettre fin au bombardement de l'Ukraine. L'Union européenne, pour la première fois depuis 1945, a unanimement voté la condamnation de la guerre de Poutine, comme l'avait nommé l'ambassadeur d'ailleurs. En effet, cette guerre s'étend au-delà des cadres diplomatiques et fait écho à une rancœur subjective. On a l'impression qu'il s'agit bel et bien de la guerre de Poutine et non pas de la Russie tout entière. Vu que Poutine a établi un régime despotique afin de maintenir sa souveraineté pour plus de 20 ans, au détriment de la liberté d'expression des citoyens russes qui semblent s'opposer à cette invasion. Par ailleurs, sachant que Poutine est farouchement opposé à l'hégémonie des États-Unis, voire même de l'intégralité du monde occidental, cette guerre pourrait en effet s'enregistrer dans le cadre de l'impérialisme russe. Les sanctions visent les entités économiques et civiles. Les pays de l'Union européenne s'opposent à tout échange de flux humains et commerciaux avec la Russie. Malgré la dépendance des pays de l'Union européenne de certaines ressources provenant de la Russie, ses membres choisissent de favoriser leurs valeurs humaines ainsi que leur lutte historique commune contre l'impérialisme soviétique. Ainsi, ils ont amputé les systèmes bancaires russes de leur territoire, et notamment du SWIFT, afin d'affaiblir la Russie. L'ambassadeur a fait preuve de reconnaissance vis-à-vis la solidarité des Européens, voire même de stupéfaction. Il ne s'attendait pas à une réaction si prompte et radicale de la part du monde civilisé, comme il les avait qualifiés. En revanche, ce dernier ne s'est pas attardé à détailler l'efficacité de ces sanctions. Il fit l'éloge de l'Union européenne. Bon, après tout, il s'agit d'un diplomate et cela va sans dire.
Dans le même cadre, nous pouvons évoquer l'efficacité des mesures de sanctions prises suite à ce conflit, qui proviennent plus particulièrement des nations développées, comme l'avait dit Assouma. On peut dire que bien que ces sanctions soulignent parfaitement leur solidarité à l'écart de l'Ukraine, certes, n'ont forcément pas permis d'arrêter Poutine ou de le déstabiliser dans son attaque.
Après que Poutine ait déclenché le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il y a eu une solidarité entre les peuples d'Europe et d'Ukraine. Après l'entrée des troupes russes en Ukraine, de nouvelles manifestations de soutien se sont déroulées dans toute l'Europe. Dans de nombreuses villes, des manifestations pro-ukrainiennes viennent d'être organisées, alors que le conflit avec la Russie laisse planer une menace sur tout le continent. Des centaines de milliers de personnes vêtues de jaune et de bleu ont défilé à travers l'Europe. Plusieurs millions en Russie, au moins 100 000 à Berlin, 70 000 à Prague et 40 000 à Madrid. De nombreux ambassadeurs ont boycotté le mardi 1 mars deux interventions du diplomate russe Sergei Lavrov au siège des Nations Unies à Genève pour soutenir l'Ukraine. De plus, quelques centaines de personnes équipées du drapeau ukrainien se manifestent actuellement dans le monde entier, pas seulement en Europe. Par conséquent, l'Europe est unie contre cette guerre. Les Ukrainiens également s'unissent pour protéger leur pays contre la Russie. Face à l'armée russe, les civils ukrainiens continuent de montrer beaucoup de résistance. Ils ont essayé de contenir l'invasion malgré le rapport de force inégal. La télévision ukrainienne a également diffusé une vidéo montrant comment fabriquer un cocktail Molotov, une bombe pétrolière, pour se défendre contre une attaque russe. L'armée ukrainienne est motivée par le désir de protéger le pays et son peuple.
Il est évident que l'ambassadeur ukrainien a pour but de recueillir du soutien. Nous pouvons notamment citer deux sortes de voies afin d'atteindre son objectif. La première est le lien qu'il met en évidence entre les orthodoxes libanais et ukrainiens à travers le livre d'Ivan Mazepa, qui nous raconte en fait l'histoire passée qui lie ces deux peuples. La deuxième voie est une méthode psychologique qui vise à pousser les Libanais volontaires à prendre parti en citant des sanctions que le monde inflige à la Russie. Plus exactement, à ne pas tolérer les actions russes et faire un peu comme tout le monde, en fait suivre le mouvement et montrer que défendre l'Ukraine, c'est ce qu'il faut faire.
Ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est la manière dont l'ambassadeur a essayé de mettre en relief les points communs et les relations de fraternité qui existent entre Libanais et Ukrainiens, afin de récolter le soutien et support des étudiants du LSG et des Libanais en général. L'ambassadeur a voulu créer ce rapprochement de ces deux pays dans un premier cas, en présentant la Russie comme étant un pays terroriste, et puis surtout Poutine comme un ennemi commun. Il a fait aussi mention du fait que le Liban s'est opposé à la Russie pour se mettre aux côtés de l'Ukraine. Il a présenté les relations entre le Liban et l'Ukraine et il rappelle également qu'un grand nombre des étudiants libanais partaient en Ukraine. Et il a même donné l'exemple du célèbre poète libanais Saïd Ahel qui a lui-même vécu en Ukraine pour une courte période.
À un moment donné, on rappelle aussi que cette rencontre était très diplomatique, au point où les questions et tentatives de mener l'ambassadeur d'Ukraine vers une autre perspective, celle de l'ennemi, étaient complètement contournées, voire même écartées. Notamment lorsqu'un certain élève avait proposé de voir les choses différemment, soit comment les États-Unis auraient réagi si le Mexique prenait en charge de cacher des armes russes ou encore d'installer leur camp de base en territoire voisin. Et si, de cette manière, le point de vue du président Poutine n'était-elle pas justifiable dans ce cas-là? On comprend clairement qu'il n'était pas question pour le débat et le sans langue de bois, hein. En fait, il a souvent changé de casquette tout au long de la conférence, entre celle d'un ambassadeur, d'un côté qui se doit de rester sobre et fixe, mais encore celle du citoyen, du civil, qui pensait à travers son instinct patriotique et la souffrance qu'un Ukrainien éprouve dans de tels drames, ce qui traduit en somme le comportement qu'il a pu avoir vis-à-vis de ces questions-là.
On peut alors dire que cette rencontre nous a présenté la situation de guerre en Ukraine, sans filtre après une semaine d'invasion. Par conséquent, nous pouvons affirmer que cette guerre a bouleversé la géopolitique mondiale, mais aussi la géopolitique européenne. Cependant, il est important de maintenir un esprit critique face aux intentions de l'ambassadeur dans sa conférence, parce qu'en fin de compte, ce n'était qu'un témoignage de son point de vue officiel. Merci à tous.